RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Dernier jour de notre semaine spéciale à l'approche des élections européennes du 9 juin. Dans 24 jours exactement, 360 millions d'électeurs à travers l'Union seront appelés aux urnes pour constituer le Parlement et ses 720 eurodéputés. Pour les Français, il s'agira d'élire 81 députés issus de 21 listes. Depuis lundi, vous l'avez entendu, nous avons évoqué tous ensemble les grandes thématiques de ce scrutin, à savoir l'écologie, l'agriculture, l'immigration. Nous allons finir aujourd'hui avec la défense européenne qui s'impose comme un enjeu majeur des élections dans le contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quel est le rôle de l'Union européenne en la matière? Que s'est-il passé depuis les dernières élections et quels sont les défis à relever? On va regarder ça de plus près avec nos invités et bien sûr avec vos témoignages et vos réactions. Est-ce que la défense européenne est un sujet qui peut déterminer votre vote lors des élections? Est-ce que l'Europe en fait assez pour se défendre? Faudrait-il une armée européenne à part entière? Et peut-on avoir encore confiance dans les Américains? Vous venez témoigner et réagir au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et depuis lundi, dans la seconde partie de l'émission, on parle des jeunes qui s'emparent d'une manière ou d'une autre de l'Europe. On verra comment ils tentent de construire la paix dans l'Union européenne. Ce sera à 10h. Et ce matin, j'ai le grand plaisir d'être avec Jean-Baptiste Labeur. C'est très rare. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Melchior. Bonjour à tous.
Ah, on parle donc de l'Union européenne ce matin.
Oui, avec la guerre en Ukraine qui depuis 2 ans a été un électrochoc pour les Européens, la fin de l'illusion d'une paix durable sur le continent, 35 ans après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, le retour d'une guerre de haute intensité a mobilisé les 27 États membres ces derniers mois. Faut-il aller plus loin? Comment faire face aux nouvelles menaces russes, voire chinoises? Comment les Européens se défendront demain? On en parle dans cette émission et pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Avec nous ce matin, le général Jérôme Pellistrandi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Et puis avec nous également, Axel Nicolas. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de la Défense à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les deux de nous accompagner dans cette première partie. Je vous rappelle que vous pouvez réagir au 04 72 38 20 23. Jean-Baptiste, on peut démarrer?
Oui, et tout d'abord, on va essayer de cadrer les choses en matière de compétences de l'Union européenne sur la défense. Ce n'est pas une compétence principale. La défense reste à l'initiative des États membres. Chaque État gère sa propre organisation militaire. Néanmoins, c'est une compétence communautaire, complémentaire, c'est-à-dire que la Commission européenne peut venir épauler les États dans ce domaine ou lancer des initiatives. Alors, la question de la défense européenne n'est pas nouvelle, puisque dès les années 50, on en a parlé avec, à l'époque, failli se mettre en place, la communauté de défense, mais la France avait refusé en 1954. Général Pellistrandi, c'était la première ébauche d'une constitution de défense européenne à l'époque, mais dans un contexte bien particulier.
Oui, à l'époque, nous étions donc dans un contexte de guerre froide avec l'Union soviétique et le pacte de Varsovie. Il y avait déjà également l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, qui avait été créée en 1949. Mais il y avait l'idée, en quelque sorte, d'aller plus loin et en particulier, en fait, dans l'idée du processus de réconciliation franco-allemand, parce que c'est ça qui était le plus important, puisque nous étions même pas 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a eu cette proposition d'une communauté européenne de défense, qui était en quelque sorte le pendant de ce qu'on appelait la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est-à-dire que pour reconstruire, à l'époque, on a besoin du charbon et de l'acier. La CECA, c'est l'ancêtre de ce que nous connaissons aujourd'hui, l'Union européenne. Et donc, il y avait l'idée de faire la même chose dans le champ de la défense.
Et avec un refus à la clé, finalement, du Parlement français en 1954, avec l'opposition notamment du général de Gaulle, et avec la crainte d'être assujetti aux Américains à l'époque. Et finalement, c'est l'OTAN qui a dominé, on va dire, l'organigramme de la défense en Europe. Axel Nicolas, l'OTAN est omniprésent depuis 1949.
Oui, alors, deux éléments. D'une certaine façon, la France a pris un chemin un peu différent dans les années 60 avec l'arrivée du général de Gaulle en ce qui concerne l'OTAN, puisque la France a décidé de se doter de la dissuasion nucléaire et donc d'une certaine façon de ne pas dépendre uniquement de l'OTAN pour sa propre défense. Et de l'autre côté, effectivement, l'OTAN est restée omniprésente pour la plupart des États européens, tout d'abord dans l'Europe occidentale pendant la guerre froide, et même ensuite plus largement dans l'ensemble de l'Europe après la chute du mur de Berlin et le fait que l'Europe orientale a rejoint l'OTAN. Et dernier élément, on l'a bien vu aujourd'hui avec le conflit en Ukraine, l'organisation qui reste la plus pertinente pour la plupart des États européens pour se défendre, c'est bien l'OTAN. Et dès le mois de février-mars 2022, il y a eu des envois de troupes supplémentaires des États de l'OTAN sur le front oriental, en Roumanie par exemple, pour la France.
Et donc cette omniprésence de l'OTAN finalement n'a pas laissé beaucoup de place à la construction d'une Europe de la défense dans le cadre des institutions européennes. Néanmoins, il y a eu des évolutions et des exemples de coopération inter-État, comme la brigade franco-allemande par exemple qui avait été créée, général Pellistrandi. Ça avait été longtemps présenté comme un embryon d'armée européenne. Finalement, on était plus dans l'affichage toutes ces dernières années.
Oui, il faut souligner que la création de la brigade franco-allemande était une décision en fait du président François Mitterrand et du chancelier allemand Helmut Kohl. Et donc c'était effectivement dans l'idée d'avoir un symbole fort, nécessaire, mais dont l'utilité opérationnelle n'a pas été réellement démontrée. Pourquoi ? Parce que il y a vraiment une différence d'emploi entre les armées allemandes et les armées françaises. Les armées françaises sont en fait depuis, on va dire, les années 1970, ont été très formatées par les opérations extérieures, c'est-à-dire cette capacité pour la France à agir sur d'autres territoires, soit au profit de pays amis, et alors que l'Allemagne, même l'Allemagne réunifiée, en fait, a toujours été très réticente à s'engager dans des opérations à l'extérieur. Voilà. Donc, on a eu donc la brigade franco-allemande. On a eu ensuite la création du l'Eurocorps à Strasbourg, qui était dans, en fait, une prolongation. Et au final, eh bien, et l'exemple de l'Eurocorps est très symbolique. C'est que l'Eurocorps, en fait, est devenu un état-major qui appartient à l'OTAN en quelque sorte. C'est-à-dire que, en fait, on voit bien que tout ce qui a été, toutes les initiatives qui sont prises, et par exemple la dernière initiative, c'est l'escadrille franco-allemande d'avions de transport C-130 qui est basée à Évreux. Tout cela s'inscrit dans le normatif que propose l'OTAN. Voilà, c'est-à-dire que je vais faire une comparaison
l'OTAN,
avec
c'est
le sport.
Le cadre, c'est l'OTAN, c'est ça, et ça,
voilà,
reste l'OTAN.
Ça reste l'OTAN. C'est un outil politique, militaire, normatif, qui reste le plus performant. Et donc aujourd'hui, tout le débat est comment articuler effectivement l'OTAN, l'Union européenne, un pilier européen de la défense. Et c'est donc ça ce qui est sur la table et qui a été accéléré, bien sûr, depuis le 24 février 2022 et l'attaque russe contre l'Ukraine.
Alors, on va y venir à ce tournant de 2022. Néanmoins, il y a eu une évolution importante avec le traité de Lisbonne et le fameux article 42 de ce traité qui met en place la politique de sécurité et défense commune de l'Union européenne. Axel Nicolas, c'est quoi cette PSDC, cette politique de sécurité commune ?
Alors, effectivement, il y a le traité de Lisbonne, mais avant ça, il y a déjà eu des traités, comme par exemple le traité de Nice ou même les négociations en Saint-Malo, qui avaient déjà instauré une politique européenne de sécurité commune. Donc, il y a eu la PESC, il y a eu la PSDC. Donc, d'une certaine façon, le sujet, c'est que la chose a toujours été là, en discussion, et le traité de Lisbonne a été un tournant relativement important, dans le sens où il y a notamment eu la nomination, à partir de 2009, d'un haut représentant pour les affaires étrangères, qui aujourd'hui est Josep Borrell. Et au-delà de ça, les traités ont aussi mis en place tout un tas de structures. Je pense à l'Agence européenne de défense, je pense à l'état-major de l'Union européenne, ce haut représentant, le Service européen des affaires extérieures. Donc tout un tas de structures qui permettent, qui sont une bonne base pour construire des choses. Seulement, avant 2022, il n'y avait pas un sentiment d'urgence. Les États européens étaient en quelque sorte encore englués dans l'envie d'avoir ce qu'on appelle les dividendes de la paix, donc ne voulaient pas investir dans la défense. Et de l'autre côté, il y avait l'OTAN. Donc, il y avait un agenda de défense européen poussé par certains pays, singulièrement la France, pour construire des éléments. Mais ça restait embryonnaire. Et je me permets un dernier élément, c'est qu'il y a également eu des opérations militaires de l'Union européenne. Souvent des missions de formation, singulièrement en Afrique, mais aussi parfois des opérations plus militaires. Et d'ailleurs, actuellement, il y a une opération qui s'appelle le NAVFOR Aspide, en mer Rouge, afin de défendre certains navires de commerce, qui est faite par ailleurs cette opération en lien avec les Américains, mais pour défendre les navires de commerce face à la menace Houthi. Donc le traité de Lisbonne a permis de chapeauter un ensemble embryonnaire et d'avoir une bonne base pour construire quelque chose.
Et alors, finalement, on a les bases, des briques, mais on n'a jamais eu l'initiative politique vraiment amorcée par une majorité d'États. C'est vraiment la guerre en Ukraine qui a servi, j'allais dire, sans mauvais jeu de mots, de mèche, de détonateur pour que les 27 puissent enfin réagir et s'interroger sur leur défense.
Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, il y a vraiment une bascule le 24 février 2022 avec d'une part le fait que l'OTAN retrouve une pertinence qui s'était un peu émoussée dans les dernières années. Souvenez-vous des déclarations du président Macron en 2019 qui parlait de du fait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Bon, il y avait notamment pratiquement entre la Turquie et la Grèce une quasi-belligérance. Bon, mais le 24 février, c'est vraiment une bascule historique. Et je voudrais dire peut-être pour les plus jeunes auditeurs, c'est que le 24 février 2022 est une bascule peut-être plus importante sur le plan géopolitique que ne l'a été le 11 septembre 2001. Voilà. Alors bien sûr, il y a eu des prémices, le durcissement des relations, notamment il y a la Chine aussi ou d'autres pays, mais c'est une bascule historique comme on en voit rarement. Voilà. Et donc tout ça accélère considérablement à la fois finalement la construction européenne, parce que, et on le voit, l'exemple le plus frappant, c'est peut-être la Pologne et les États baltes, c'est-à-dire ces États qui ne juraient que par l'OTAN sur le plan militaire et qui voyaient l'Union européenne comme le pourvoyeur de fonds, mais qu'il fallait critiquer. Et c'était notamment le cas de la Pologne avec la précédente majorité donc politique. Et aujourd'hui, le sentiment d'urgence que on a à la fois un besoin impératif pour la sécurité de l'Europe, de l'OTAN et de l'Union européenne. Voilà. Alors, c'est vraiment une bascule historique et maintenant, il va falloir voir comment on construit ces évolutions.
Voilà, cette bascule de 2022, on va en parler bien sûr dans cette émission. Il est plus de 9h15 dans Je pense donc j'agis. Vous avez la parole, je le rappelle, pour réagir, pour apporter vos témoignages. Est-ce que la défense européenne est un sujet qui peut déterminer votre vote lors des élections? Est-ce que l'Europe en fait assez pour se défendre? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être une armée européenne à part entière? Venez apporter vos réactions au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Jean-Baptiste Labeur.
On continue cette émission avec nos deux invités, le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, et Axel Nicolas, co-directeur de l'Observatoire de la Défense Orion à la Fondation Jean Jaurès.
Alors, on continue évidemment à évoquer ce conflit ukrainien. Général Pellistrandi, est-ce qu'on peut rappeler quand même que, vous disiez, c'est un tournant plus important que celui du 11 septembre, parce que c'est le retour de la guerre de haute intensité en Europe. On a eu des conflits en Europe durant les années 90. On pense notamment à l'ex-Yougoslavie avec la guerre en Bosnie, la guerre en Croatie et puis au Kosovo. Mais là, on a franchi un niveau supérieur. La haute intensité, c'est quoi et quelles sont ses conséquences? Qu'est-ce que cela implique?
Alors, une première remarque préliminaire qui est importante, c'est que, et notamment, je pense à nos soldats, et je pense justement notamment aux deux agents pénitentiaires et aux gendarmes qui ont été tués en 48 heures. Quand on est au feu, Il n'y a pas de haute ou de basse intensité. La munition de Kalachnikov, elle vous tue. Bon, voilà. Et ça, c'est quand même une remarque importante. Par contre, ce qui se passe, c'est que effectivement, on est, dans le cas du conflit imposé par la Russie à l'Ukraine, dans une guerre de haute intensité qui est similaire à ce que on a connu sur, on va dire, Première et Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire énormément de troupes engagées, des puissances de feu colossales, des champs de bataille gigantesques, et donc des pertes extrêmement importantes de part et d'autre. Avec l'utilisation, et c'est ça ce qui est d'ailleurs très paradoxal ou très curieux dans la guerre en Ukraine, c'est qu'on a à la fois la guerre de 14-18 avec les tranchées, avec tout ce que cela comporte d'extrêmement éprouvant pour les soldats, quel que soit d'ailleurs le camp, mais également l'artillerie, les chars, les avions, et puis la technologie du 21e siècle avec le numérique et les drones. Et ce qui fait que, en fait, ce sont des guerres qui sont menées H24, puisqu'on a les outils pour voir la nuit, les drones, qui couvrent un spectre de plus en plus large, c'est-à-dire que c'est aussi bien la puissance de feu que la manipulation et la désinformation. Et donc, c'est quelque chose que l'on n'avait pas vu sur le continent européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Même si, vous l'avez rappelé, en ex-Yougoslavie, les combats ont été violents. Mais l'ex-Yougoslavie, c'est la désintégration d'un État. Et donc, alors que là, c'est un État souverain, l'Ukraine, qui est agressé par la Russie, qui est quand même le plus grand pays du monde en termes de superficie et qui est une puissance nucléaire. Donc on est vraiment dans un changement de paradigme qui est extrêmement violent.
Axel Nicolas, la haute intensité, ça, on l'a vu, ça nécessite une consommation exceptionnelle de munitions, d'équipements, et donc il y a toute une chaîne de logistique hein, et industrielle derrière qui doit suivre. Et là, pour le coup, les Européens n'étaient pas prêts. Pas suffisamment, alors, en tout cas.
Effectivement, je me permets juste sur la haute intensité de recommander une très bonne note est rédigée par Elie Tenenbaum, qui est chercheur à l'IFRI, en juillet 2023, et qui résume très bien les enjeux de haute intensité pour celles et ceux qui sont les plus curieux. Effectivement, sur votre question, on peut pas dire que les Européens étaient prêts. Et je crois que ce qui symbolise le plus cette chose-là, c'est que en mars 2023, Thierry Breton avait promis que 1 million d'obus de 155 seraient livrés aux Ukrainiens en un an. Et un an plus tard, en réalité, on était entre 300 000 obus et 500 000 obus, soit même pas la moitié de ce qui avait été promis. Donc c'est une bonne illustration, malheureusement, que les Européens n'étaient pas prêts. Après, ceci dit, il y a des mesures qui ont été prises. C'est un élément à noter, et notamment sur le sujet des munitions, il y a ce qu'on appelle ASAP, non pas pour As Soon As Possible, ou en tout cas en partie pour As Soon As Possible, mais surtout pour l'Act in Support of Ammunition Production. Et donc, la Commission européenne a mis de l'argent sur la table, ce qui est assez notable, 300 millions d'euros pour soutenir les chaînes de production de munitions en Europe. Donc, effectivement, l'Europe n'était pas prête au déclenchement de la guerre. En tout cas, depuis un an, il y a des tabous qui sautent et il y a de l'argent communautaire qui est mis sur la table pour soutenir l'industrie de défense, surtout dans le cas des munitions, qui sont finalement ce qu'il y a de plus militaire ou de plus défense dans l'industrie de défense, en tout cas.
Pour donner un ordre de grandeur, hein, je crois qu'en France, on produit en un an ce qui est consommé en un jour par les Ukrainiens sur le front en termes d'obus d'artillerie. Vous dites cette initiative ASAP sur les munitions a été mise en œuvre. C'est pas la seule depuis le début du conflit. Concrètement, qu'a fait l'Union européenne depuis le début de la guerre, Axel Nicolas?
Moi, je veux juste, il y a trois éléments qui me semblent notables sur qu'est-ce qui a été fait depuis le début de la guerre. Le premier, c'est les mesures. J'ai évoqué ASAP. Je vais en évoquer deux autres. C'est par exemple EDIRPA. Là, je ne vais pas nous faire l'honneur ou le malheur de tout expliquer, mais disons que EDIRPA, c'est de l'argent également mis sur la table par la Commission européenne pour encourager les États européens à acheter européen ensemble. C'est-à-dire que si deux ou trois États décident d'acheter ensemble un équipement européen, ils ont droit à un peu d'argent de la Commission européenne, donc pour encourager l'acquisition en commun. Ça, il y a ASAP et DIRPA. Et surtout, troisième élément, tout à l'heure, j'ai évoqué qu'il y avait de bonnes bases. Il y a ce qu'on appelle la Facilité européenne de paix, qui aujourd'hui a 11 milliards d'euros depuis le début de la guerre, qui a vocation à rembourser le déstockage des équipements militaires européens qui ont vocation à aller en Ukraine. Donc il y a ces trois mesures-là qui ont été mises en place par l'Union européenne, en tout cas utilisées. Mais les deux éléments qui me semblent le plus notables, c'est que désormais la défense est systématiquement évoquée lors des conseils européens. Donc ça, c'est surtout que le sujet, désormais, contrairement à avant, est systématiquement en haut de l'agenda. Et on voit des États, je pense par exemple à l'Estonie, qui systématiquement poussent pour aller plus loin dans une défense européenne. Et ce troisième élément, puisqu'on est dans le cadre des élections européennes, on voit qu'il y a d'autres idées qui émergent, comme par exemple l'idée poussée par Thierry Breton, qui est commissaire à l'industrie de défense à Bruxelles, pour l'idée d'avoir un fonds à 100 milliards d'euros. Et certains également qui évoquent, comme l'Estonie, l'idée d'avoir un commissaire à la défense. Donc il y a un des mesures qui ont été prises, deux, le sujet défense est systématiquement évoqué, et trois, surtout, il y a plein d'idées qui évoquent aujourd'hui et on risque bien d'aller plus loin après les élections européennes.
Général Pellistrandi, il y a un double défi en fait pour les Européens en termes d'aide à l'Ukraine. Premièrement, il faut leur fournir des équipements, des obus, etc. Pour leur armement. Mais on a vu aussi, il y a eu les dons des armées européennes, des différentes armées européennes, avec des chars Léopard, avec des chars AMX-10 pour les Français, avec également des systèmes de défense antiaérienne. Et ces matériels-là, il faut les remplacer. Et la chaîne de production, elle n'est pas encore adaptée, même si on entend ce terme d'économie de guerre depuis plusieurs mois.
Oui, mais c'est la problématique du verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors effectivement, comme le disait Axel il y a quelques instants, l'Europe n'était pas prête et ne s'attendait pas à un tel déchaînement de guerre sur son territoire. Et avec, il faut aussi le rappeler, la surprise stratégique qu'a constitué la capacité de l'Ukraine à résister. Parce que si l'Ukraine était tombée au bout de 3 semaines, les Européens auraient pleuré des larmes de crocodile, et puis, on aurait, devant le fait accompli russe, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Donc là, on est vraiment dans une autre logique, avec le fait que, dans un premier temps, on a livré des équipements qui étaient pris sur les stocks des armées européennes, avec le fait que ces armées européennes, dont l'armée française, avaient subi les fameux dividendes de la paix. C'est-à-dire que, des exemples très concrets, en tout cas pour la France, le fait que le matériel des années 70-80 qui avait été retiré du service, il a été ferraillé. On n'avait pas de stock massif, alors que à l'inverse, les Russes, ils ont tout conservé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pratiquement. Bon, alors ça ne veut pas dire que les vieux chars des années 50 sont toujours en état de marche, mais ils ont des stocks colossaux. Bon, alors que l'Europe a dû puiser sur ce qu'elle avait, elle a dû puiser sur les stocks en service dans leurs propres armées, c'est-à-dire donc faire des choix capacitaires. C'est la raison pour laquelle la France a transféré à l'Ukraine un quart de ses canons d'artillerie César, ce qui est quand même énorme. Alors maintenant, effectivement, depuis plus de 2 ans, les choses ont changé. Et en particulier, le fait que l'industrie, et c'est le cas de l'industrie française, est passée dans un mode de fonctionnement différent, où il s'agit de produire plus vite et en plus grande quantité. Je reprends l'exemple du canon César. Il fallait, au début de la guerre en Ukraine, 3 ans pour fabriquer un canon César, en quelque sorte, et la cadence de production était de l'ordre de 2 canons par mois. Vous voyez, donc, production quasiment artisanale, en quelque sorte. Aujourd'hui, à l'heure où je vous le parle, nous sommes à plus de 6 canons par mois, et il faut maintenant à peine 15 mois entre la fabrication de la première pièce et le canon livré. Voilà. Et ça, ce sont des changements majeurs et pour lesquels l'Union européenne a énormément fait. Ça, c'est un point sur lequel, puisque c'est la semaine européenne, insister sur le fait que l'Union européenne et la Commission européenne ont vraiment pris conscience de la gravité de la situation. Parce que jusqu'à présent, il y avait des problèmes de financement. Un industriel à la tête d'une petite PME travaillant dans le domaine de la défense et qui avait besoin, par exemple, d'un financement, d'un prêt bancaire pour accroître ses capacités de production, bah, il allait voir sa banque et sa banque lui disait « Ah ben non, vous savez, les réglementations européennes, il y a le tabac, la pornographie et la défense. » On en était là. Vous imaginez la révolution culturelle à Bruxelles où là, aujourd'hui, effectivement, vous avez donc Thierry Breton, commissaire, qui dit « mais il faut mettre des milliards ». Pourquoi ? Parce que c'est notre, c'est l'Union européenne qui est en jeu.
On va marquer une petite pause, Général Jérôme Pélistandry et Axel Nicolas. Jean-Baptiste, on se retrouve dans un instant. On a encore plein de choses à se dire, hein, de toute façon, sur ces élections européennes. On parle de la défense ce matin. Avec vos réactions, vos témoignages au 04 72 38 20 23, je vous lirai un message de Serge qui habite à Bourges, à direct@rcf.fr. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Jean-Baptiste Labeur.
9h30 dans Je pense donc j'agis. Ce matin, on parle de la défense européenne qui s'impose comme un enjeu majeur des élections européennes. Avec nos invités, vos réactions également. Est-ce que la défense est un sujet qui peut déterminer votre vote lors des élections? Est-ce que l'Europe en fait assez pour se défendre? Est-ce qu'il faudrait aussi une armée européenne à part entière? 04 72 38 20 23. Vous réagissez également dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Les brasiers possibles qui réinventent l'âme. Je n'en ai pas fini de leur courir après. De plaines en refuge et de voiles en rame. J'avance au bord du gouffre et je trace discret. Le passé ne passe pas et ça me va très bien. L'avenir me poursuit en désir par millions. Je navigue effondré entre hier et demain. En hurlant dans le vent mes doutes à l'unisson. À force de me chercher dans les branches, de me chercher dans les blés, de me chercher sur tes hanches, je vais me trouver. À force de me chercher sur les planches, de me chercher au ciné, dans l'ombre et la revanche, je vais me trouver. Les brasiers possibles qui réinventent l'âme. Je n'en ai pas fini de leur sauter dedans. Mes sanglots se font rire, mes feintes font leur gamme. Face à la vallée, est-ce que tu me comprends? J'ai longé tant de murs, esquivé mon reflet. Affronté le silence et perdu le contact. Je ne crois qu'à l'aventure de bas-fonds en sommet. Le vertige est pour moi la seule science exacte. À force de me chercher dans les branches.
Ah oui, à force, c'était Noé Préchauffe, pardon, pour vous accompagner en ce jeudi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec le général Jérôme Pélistrandy, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, et Axel Nicolas, co-directeur de l'Observatoire de la Défense Orion à la Fondation Jean Jaurès. On a un auditeur qui nous a laissé un message, Serge, qui habite à Bourges. Il pouvait pas venir à l'antenne, mais il veut une armée européenne. Axel Nicolas, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est une fausse bonne idée?
Voilà, il y a plein de choses à dire. Je pense que c'est bien de se fixer des horizons de réflexion et ça permet de savoir vers où on veut aller. Après, je pense qu'une armée européenne à 27, unique, ça ne sera pas forcément simple. Je pense qu'il faut un peu déconstruire les choses. On pourra avoir des armées européennes, etc. On peut avoir 2, 3, 4 armées européennes. Mais surtout, je pense qu'il faut réfléchir en termes d'objectifs. Ce qui est nécessaire, c'est que les Européens soient capables de se défendre. Et, si possible, de se défendre seuls. C'est ça l'objectif. Ensuite, on adaptera les outils. Alors, est-ce qu'il faut pilier européen dans l'OTAN ? Est-ce qu'il faut une armée européenne ? Est-ce qu'il faut que les Européens A27 soient capables de se déployer ensemble très rapidement ? Il y a tout un tas de choses qui peuvent être imaginées. Et puis de l'autre côté, il faut aussi avoir en tête qu'il y a plusieurs types de menaces. Et effectivement, là, je pense qu'on est inconsciemment dans un cadre encore très militaire avec des chars et des régiments et des soldats, etc. Mais il y a aussi, par exemple, les menaces cyber, où là aussi, il faut être capable de collaborer ensemble. Donc je pense que ce qui est nécessaire, c'est de ne pas avoir une sorte de fétichisme sur l'outil, mais d'avoir un fétichisme sur l'objectif, qui est que les Européens soient capables de se défendre seuls et qui donc développent les outils pour se défendre seuls, et que ce soit une armée, plusieurs armées, être capables d'être déployés ensemble, un pilier européen dans l'OTAN. C'est ça qui est important.
Général Pellistrandi, vous me disiez en préparant cette émission qu'il y avait une idée à tuer, c'était celle justement d'une armée européenne unique.
Oui, absolument. Pour de très nombreuses raisons. C'est-à-dire que on aurait en quelque sorte des soldats qui seraient sous un uniforme européen, qui parleraient l'anglais, qui seraient alors on aurait des Belges, des Allemands, des Slovaques. Ça marche pas. Voilà. Pourquoi ? Pour un tas de raisons. Parce que dont la première, qui est celle de la finalité opérationnelle et en particulier au combat. Voilà. Alors, par contre, ce qui fonctionne bien, c'est la capacité à travailler ensemble. Je vais prendre un exemple très concret. C'est ce qui se passe avec la Belgique et le Luxembourg. Ce qu'on appelle la composante terrestre belge, donc l'armée de terre belge, et le Luxembourg, qui est un petit pays en termes démographiques, sont en train de s'équiper de matériel terrestre français dans ce qu'on appelle le système Scorpion. C'est-à-dire que les véhicules de combat belges et luxembourgeois seront les mêmes que les véhicules français. Et en fait, ça veut dire cette capacité. Mais pour autant, le soldat luxembourgeois, il sera toujours sous son uniforme luxembourgeois. C'est cette capacité à travailler ensemble qu'on appelle l'interopérabilité. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne depuis très longtemps. Je vais prendre un autre exemple, puisque nous sommes sur RCF. Vous êtes français et puis vous allez un dimanche en Italie ou en Allemagne ou en Espagne et que vous allez à la messe. Bah, la langue, c'est la langue du pays, mais le rite, il est le même. Donc, vous voyez, et c'est pas pour autant que vous êtes capable de suivre la messe en Italie, même si en italien, même si vous comprenez pas forcément tout, mais vous êtes pas paumé en quelque sorte. Voilà. Et donc, je vais prendre cette comparaison. Donc, penser qu'on pourrait avoir une super armée européenne avec non, mais c'est cette capacité à travailler ensemble qui est primordiale. Et ça, il y a déjà un outil qui le fait, c'est l'OTAN. Et donc maintenant, en fait, le véritable défi, c'est en quelque sorte que, au sein de l'OTAN, la dimension européenne puisse être plus forte. Pourquoi ? Parce que il y a une problématique qui est la relation avec les États-Unis.
Et on va y venir, hein, parce que une partie des matériels, par exemple, qui ont été donnés à l'Ukraine, n'ont pas été remplacés par du matériel européen, mais par des achats sur étagère de matériel américain. Beaucoup de pays ont fait le choix d'avions de combat F-35 américains. Il y a une espèce de frein entre Européens et Américains, qui est celle de la concurrence entre les différentes industries. Axel Nicolas, qui peut l'emporter là-dessus ? Les dispositions européennes seront suffisantes pour maintenir l'outil industriel de la défense européenne ?
Là-dessus, l'étude qui fait un peu référence, c'est donc l'étude qui a été menée par l'IRIS et par Jean-Pierre Molny à la rentrée en septembre ou en octobre 2023, et qui notait qu'effectivement, entre juin 2022 et juin 2023, les deux tiers des achats par des pays européens ont été des achats auprès des Américains. Et que 80% même des achats ont été faits auprès de pays non européens. Ce qui veut dire que seulement 20% des achats des pays européens ont été faits auprès des pays européens entre juin 2022 et juin 2023. Donc, effectivement, qu'est-ce que ça dit, ces chiffres-là ? Ça veut dire que c'est pas forcément, même pas du tout, que les équipements faits par les Européens sont moins bons. C'est tout simplement qu'est-ce qui était disponible sur le moment ? C'était des équipements américains. C'est-à-dire que les Américains avaient soit du stock à donner, soit la capacité à produire rapidement ou en masse et donc moins cher. Et premier élément. Et deuxième élément, vous avez évoqué le cas, par exemple, du F-35. Il y a un certain nombre d'États européens qui ont déjà du F-35. Le F-35 est l'outil américain. Et donc, il y a un souhait d'acheter américain pour être interopérable avec ses voisins qui ont acheté américain, mais aussi pour être interopérable avec le voisin américain. Et par ailleurs, acheter américain, c'est aussi acheter le parapluie américain, acheter la sécurité des États-Unis. Et c'est un élément qui compte. Mais je me permets juste de prendre un exemple qui est le cas polonais, où les Polonais, eux, ont décidé non pas d'acheter américain parce qu'il y a la composante des chars, en tout cas pas que américain puisqu'ils ont acheté 250 chars américains, mais ils ont surtout acheté 1000 chars coréens. Et en réalité, notamment pour les pays d'Europe orientale, ce qui compte, c'est leur sécurité tout de suite, immédiatement. Et le problème de l'industrie de défense européenne, c'est qu'elle n'est pas capable de produire rapidement, tout de suite, pour répondre aux besoins européens. Donc il y a bien un élément à avoir en tête, c'est la temporalité. Les outils européens, ils sont extrêmement efficaces pour essayer d'accélérer les choses, mais il faut être patient et avoir les choses à moyen terme et à long terme.
On a un auditeur qui nous a rejoint depuis Bruxelles, ça tombe bien pour une émission sur les élections européennes. C'est André au 04 72 38 20 23. Bonjour André.
J'entends qu'on parle d'armée, de canon et tout ça. Je suis absolument en total désaccord avec ça. À un moment donné dans ma vie, j'étais tout départ dans ma jeunesse pour la non-violence absolue. Et puis disons, je me suis dit que ce serait bien d'avoir une armée européenne à la place de l'OTAN. Et puis disons, je me dis aujourd'hui que ça ne vaut pas mieux quand je vois ce qui se passe en Ukraine. Et les informations que j'ai. Pour tout dire aussi, je dois dire que je trouve que la dictature. Il y a une dictature en France comme il y a une dictature en Russie aujourd'hui. La seule différence, c'est que c'est beaucoup plus subtil. On n'enferme pas les gens en France, mais c'est un peu genre démocratie s'écoule toujours. Donc pour moi, ça ne vaut absolument pas mieux. Macron, d'ailleurs, à la différence de Poutine, il a été élu par une minorité. Donc ça, il faut quand même retenir aussi.
On parle vraiment des élections, André, ce matin.
Oui, des élections, oui. Mais c'est parce qu'on parle aussi de tout ce que, quand je pense à tout ce que l'Union européenne investit en Ukraine en matière de canons, je rappelle quand même aussi que dans la Bible, le Christ délivre un message de non-violence. Moi, je ne comprends pas comme une religion chrétienne, on peut parler de canons et de, je ne sais pas, et d'autres moyens et d'armées européennes et tout ça.
Merci beaucoup, André, pour votre appel depuis Bruxelles, général Jérôme Pellistrandi. Comment vous réagissez à ce que nous a dit André ?
Écoutez, ça fait 43 ans que je suis militaire. Je suis croyant pratiquant. C'est un débat qui effectivement m'interpelle. Alors effectivement, vous pourrez me dire, c'est dans la Bible, hein, si on te frappe sur la joue, tends l'autre joue. Oui, c'est possible. Hélas, qu'est-ce que l'on constate, c'est que la non-violence. Aujourd'hui, c'est impossible pour résoudre les conflits. Vous avez une Russie, la Russie de Vladimir Poutine, qui est d'une agressivité épouvantable. Le jour où il n'y a plus de guerre, où il n'y a plus besoin d'armée, je suis désolé, ça s'appelle le paradis. Voilà. Et en tant que... l'homme a été chassé du paradis. Voilà. Donc, la responsabilité d'un État, c'est pas d'accumuler des armements et d'être un État militariste comme, par exemple, peut l'être la Corée du Nord ou la Russie, mais c'est de protéger nos libertés, nos droits, et ce qui se passe en Ukraine nous impacte directement. Donc, oui, c'est peut-être dommageable que qu'on dépense plus d'argent dans l'armement, acquérir des choses qui vont tuer. Mais le problème, c'est que si on le fait pas, eh bien, de l'autre côté, on a des gens qui, eux, sont décidés à casser ce que représente le projet européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, je veux insister lourdement. On parle des élections européennes. La construction européenne, elle a amené la paix. Moi, j'ai franchi le mur de Berlin en 1981. De l'autre côté, c'était le pacte de Varsovie. Donc aujourd'hui, tous ceux qui vont à l'encontre et qui disent il faut retourner à l'Europe des nations, il faut fermer les frontières, ils oublient ce qu'a été la construction européenne. Et la construction européenne, elle a été notamment initiée dans les années 50 par un certain nombre d'hommes et de femmes qui justement s'inspiraient, directement du christianisme, hein, les grands démocrates chrétiens que sont qu'ont été Robert Schuman, Monet, Gasperi en Italie, parce que derrière il y a eu les deux naufrages qui ont été la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, l'Union européenne, malgré tous ses défauts, elle nous a apporté la paix. Et pour un militaire, la paix, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Nous ne cherchons pas à faire la guerre, nous cherchons à préserver la paix. Sauf que, pour préserver la paix, c'est le civis pacem parabellum. La formule latine bien connue.
Si tu veux la paix,
oui, prépare la guerre.
Voilà. Voilà. On traduit en français. on va marquer une petite pause. Non, il y avait pas une petite virgule, non.
Ah, mais si vous voulez une virgule,
je sais pas. Bon, c'est pas grave. Sinon, on continue sur la troisième partie de cette émission, oui. Parce que justement, dans la préparation de la guerre entre guillemets, il y a pour défendre la paix, on va parler du futur maintenant. Axel Nicolas, est-ce que vous avez tout d'abord identifier quelques défauts et faiblesses dans les dispositifs qui ont pu être déjà mis en œuvre par l'Union européenne qu'on évoquait tout à l'heure.
Oui, il y a au moins deux éléments. Le sujet, c'est que les choses ont été construites dans l'urgence. Donc, il y a peut-être un sujet de cohérence, parfois, entre les outils, même si, néanmoins, dans le domaine de l'armement, il faut voir qu'il y a la R&D, donc la recherche et le développement. Sur ce point-là, désormais, il y a ce qu'on appelle le Fonds européen de défense, qui dépense par la Commission européenne, qui dépense donc chaque année 1 milliard d'euros dans la R&D. Donc, il y a la recherche et le développement. Et puis après, il y a l'acquisition. Et désormais, sur la partie acquisition, il y a l'outil que j'ai évoqué tout à l'heure, EDIRPA, pour encourager à des acquisitions communes. Et même sur la partie production, il y a désormais ASAP pour soutenir la production de munitions. Donc, il y a une certaine cohérence qui émerge. Mais les choses ont été faites un peu vite dans l'urgence, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont mal, mais il faut peut-être à un moment réfléchir à l'architecture globale pour que les outils européens soient cohérents entre eux, et puis aussi la cohérence avec les programmations nationales. Et ça, c'est peut-être un élément qui manque, c'est comment les différents États européens s'approprient ces outils, prennent en main ces outils dans le cadre de leur propre programmation nationale qui est parfois pluriannuelle. En France, on a ce qu'on appelle la loi de programmation militaire. Donc c'est comment on fait en sorte que les outils soient cohérents entre eux, avec les éléments nationaux. Et puis un dernier élément, c'est les montants. EDIRPA, tout à l'heure j'ai évoqué, c'est 300 millions d'euros, je crois même que c'est sur 2 ans, c'est un petit montant. Typiquement, un Rafale, à la louche, c'est 100 millions d'euros, ça dépend de l'armement, ça dépend de la version, mais vous voyez qu'on va pas donc pas très loin avec 300 millions d'euros à 27. Même chose, le Fonds européen de défense, c'est 1 milliard d'euros chaque année pour de la R&D au niveau européen à 27. 1 milliard d'euros, c'est le budget de R&D français annuel. Donc, il y a un sujet sur la cohérence, il y a un sujet sur le montant des montants qui sont peut-être encore pas suffisamment importants pour permettre d'enclencher un effet d'échelle.
Et est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'il y ait, j'allais dire, de plus grands partenariats entre les différents industriels qui, parfois, se font concurrence entre eux en Europe, Général Pellistrandi?
Alors, c'est là où ça devient un petit peu compliqué, effectivement, parce que, voilà, il y a des positions industrielles, des investissements, et il y a des champions nationaux, donc il faut être patient. C'est pas simple. On a des exemples de belles réussites. Par exemple, je veux dire Airbus dans le domaine du champ de l'aviation civile. Mais dans d'autres domaines, c'est plus compliqué. On a, mais et là, c'est aussi, par exemple, assez inquiétant. On a le mauvais exemple aujourd'hui de ce qui se passe dans le domaine spatial. On a eu la très belle aventure d'Ariane Espace. Bon, il faut espérer que Ariane 6 puisse décoller au mois de juin. Ça participe aussi de notre souveraineté européenne. Hein. Ariane 6, c'est un projet européen. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit, par exemple, que dans le domaine des ce qu'on appelle des micro-lanceurs ou des petits lanceurs, eh bien, c'est maintenant chaque pays, au lieu d'avoir une coopération européenne, s'est lancé dans des aventures industrielles, nationales. Bon, voilà, c'est compliqué. Une chose est sûre, c'est que, et c'est l'une des problématiques des programmes d'armement, c'est que derrière, il y a de l'argent, donc il y a des emplois, donc il y a des intérêts, et que, effectivement, il faut progresser dans ce domaine-là, sachant qu'on l'a rappelé depuis le début de l'émission, bah, il y a bien sûr le concurrent américain qui, lui, est capable de submerger en quelque sorte le continent européen de ses produits.
Alors justement, sur les États-Unis, on a un appel de Guy qui voulait réagir. Bonjour Guy.
Bonjour Melchior, bonjour mon général, bonjour monsieur le directeur. Merci pour cette belle émission. Bon, moi j'ai 73 ans, 74 même, donc j'ai fait mon service militaire dans les parachutistes, dans les commandos parachutistes, et j'étais dans une unité qui était prêtée, entre autres, à tous les régiments parachutistes et la Légion. Et dans la Légion étrangère, combien, il y a près de 60 nationalités. Et tout le monde s'entend très bien. Il y a une langue commune qui est le français, bien évidemment, mais tout le monde s'entend très bien. Ça, c'est une première chose. Donc, on peut y arriver. L'union de l'Europe est essentielle. Ça nous permet de nous démarquer, de nous sortir de cette emprise qu'ont les États-Unis depuis 70 ans, hein, depuis qu'ils ont libéré l'Europe. C'est essentiel. Ça nous permet d'exister pleinement dans notre structure, dans notre culture, et d'éviter que les Américains soient toujours en train de nous mettre les bâtons dans les roues, dans notre économie en plus. Donc ça, c'est essentiel. Et de l'union naît la force. Ça, il faut ne jamais l'oublier. Tout seul, nous ne pouvons rien. De l'union naît la force. Nous sommes maintenant, même si on comprend les Anglais avec nous, nous sommes 500 millions d'habitants. Lorsque le président Macron dit qu'il n'est pas inévitable qu'il y ait une mobilisation pour intervenir avec des troupes en Ukraine, moi je le crois, parce que nous sommes en train de monter en puissance. Poutine ne lâchera pas. Tant qu'il ne sera pas décédé, il ne lâchera pas. Il continuera, même il amplifiera le mouvement. Donc on va avoir une obligation à un moment donné d'intervenir d'une manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus forte, pour protéger l'Ukraine, pour nous protéger.
Merci Guy. Pardon, je me permets de vous couper la parole parce qu'on arrive doucement à la fin de cette émission. On a encore des choses à dire. Général Jérôme Pellistrandi, pardon, comment vous réagissez à ce qu'a dit Guy?
Très vite. Il ne faut pas opposer l'Europe aux États-Unis. Il faut poursuivre à travailler ensemble. Ce qu'il faut, c'est être d'abord plus présent, notamment, pardon, pour les Français au sein de l'OTAN. Et comprendre que pour d'autres pays européens, leur dire « non, mais la relation avec les États-Unis, c'est du passé », non. Ils ont construit leur sécurité, ils ont construit leur indépendance parce qu'il y avait les États-Unis. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres, il faut travailler en complémentarité, et c'est ce qui fait justement cette force. Et effectivement, très vite, le dernier point, c'est que la guerre en Ukraine ne s'arrêtera que lorsque Vladimir Poutine aura compris que ça sert à rien. Voilà. Mais tant qu'il n'a pas compris, la guerre en Ukraine va continuer, d'où le besoin d'aider l'Ukraine.
Axel Nicolas, sur la question américaine, il y a quand même une épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête des Européens. C'est le scrutin de la présidentielle américaine de novembre, avec le risque d'un retour de Donald Trump. Donald Trump qui a affirmé à plusieurs reprises que il ne soutiendrait pas forcément les pays européens qui seraient menacés par la Russie. Ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte dans le débat actuel.
Alors, quatre éléments, je crois. Le premier, c'est que déjà, c'est pas forcément dit que Donald Trump va gagner. Donc, on est à ce stade à la louche à un 50-50 entre Joe Biden et Donald Trump. Donc, les choses peuvent se poursuivre. Mais deuxième élément, on l'a bien vu avec le non-vote, ou en tout cas le vote long de l'aide à l'Ukraine, qui a eu lieu seulement fin avril, après 4 mois, que même déjà avec Joe Biden, les choses ne sont pas si simples. Parce que au-delà de la présidence Trump ou pas, si on a Trump président, mais une chambre des représentants et un congrès qui est démocrate, les choses ne sont pas les mêmes. Donc, disons que les équilibres américains sont assez complexes. Et par ailleurs, il faut aussi avoir en tête sur le long terme que le dilemme stratégique américain, les Américains voient l'Europe, mais ils voient aussi ce qui se passe en Indo-Pacifique et la potentialité d'un conflit entre la Chine et Taïwan. Donc à moyen long terme, il n'est pas dit que les Américains continuent de soutenir autant l'Ukraine, parce que eux, ils ont l'Ukraine, ils voient Taïwan et ils voient aussi Israël qui, même si c'est pas simple en ce moment, est dans leur dilemme. Et par ailleurs, je me permets juste deux derniers éléments très courts. Le pire ne peut pas toujours advenir, et typiquement, il faut se rappeler que c'est Donald Trump qui, je crois, dès 2016, a commencé à donner des armes létales à l'Ukraine. Donc, c'est un élément à prendre en compte, et peut-être que Donald Trump continuera d'armer l'Ukraine. Et enfin, Dernier élément, le risque, c'est que si Donald Trump est élu, le sujet, c'est comment les Européens vont réagir. Parce que ce que va souhaiter Donald Trump, c'est entrer dans un tête-à-tête avec chaque État européen, à dealer des choses en one-to-one avec chaque État européen. Et donc, c'est est-ce que les Européens seront capables d'avoir une réponse unie face à Donald Trump s'il est élu, plutôt que de tomber dans une sorte de marchandage, de marchand de tapis entre chaque État?
Il y aurait un risque de division, hein, d'une volonté de diviser les Européens, diviser pour mieux régner.
Tout à fait. Je pense que Donald Trump est dans une logique aussi assez marchande et commerciale. Donc, s'il arrive à vendre des choses à chaque État, typiquement, on peut se rappeler que son prédécesseur en Pologne avait payé les Américains pour qu'ils s'installent et qu'ils aient des bases américaines en Pologne. Donc, je pense que effectivement, Trump cherchera à diviser pour mieux régner.
On a beaucoup parlé de la guerre, hein, Jean-Baptiste. On a peu parlé de la paix. C'est Sylvette qui voulait absolument nous en parler. Bonjour Sylvette. On vous écoute rapidement si possible.
Oui, alors je constate que depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on parle essentiellement d'armement de guerre, de destruction de finances et rarement de la paix, de la communication, d'échanges, de témoignages des populations, des manifestations pour la paix. Et de tous les modes d'emploi pour développer la paix, et de ce qu'elle signifie dans la vie politique en Europe ou ailleurs, et dans la vie personnelle aussi. Voilà. Je suis pour la paix, et je crois qu'effectivement ce monde serait bien plus beau si on mettait tout l'argent qu'on met dans la guerre dans la paix, et les gens seraient heureux, et la paix est possible.
Merci.
Merci
à vous, Sylvette, d'avoir témoigné dans Je pense, donc j'agis. Ben voilà, un petit message, un peu d'espoir, Jean-Baptiste, pour finir cette émission doucement.
Oui, s'il nous reste peut-être juste deux questions à poser à nos invités. Comment, Général Pellistrandi, vous voyez, vous imaginez la défense des Européens dans les années à venir? Quel est un petit peu le modèle idéal, selon vous?
Et la prolongation de ce qui est fait actuellement, on peut pas opposer l'OTAN à l'Union européenne. Je pense que ce qu'il faut, c'est que les citoyens européens prennent conscience que nous avons un certain nombre de choses à défendre, dont la paix, la démocratie, le respect de l'état de droit. C'est-à-dire qu'au-delà des questions strictement militaires, il faut prendre conscience de ce que représente cette construction européenne qui nous permet de voyager librement, de s'installer au Portugal, en Allemagne, au Danemark, d'échanger, je pense à Erasmus. Voilà. Et tout ça, c'est fabuleux. Il faut défendre ce projet-là. Pensez que en se repliant derrière nos frontières, en créant des lignes Maginot, eh ben non, en fait, les lignes Maginot, elles n'ont jamais réussi à nous défendre et à nous protéger. Donc, au contraire, c'est en travaillant ensemble qu'on construira cette Europe de la paix que demande Sylvette.
Axel Nicolas, l'Europe de la défense, demain, elle sera collective, elle sera technologique, elle sera aussi, on va dire, avec l'intelligence artificielle.
En fait, excusez-moi, deux éléments. Le premier, c'est que je suis d'accord avec le général Pellistrandi. Je pense que le modèle idéal, c'est effectivement poursuivre dans ce qui se construit actuellement, avec par exemple l'exemple franco-belge évoqué tout à l'heure avec les Luxembourgeois, où il y a une interopérabilité améliorée entre les armées qui existent déjà. Premier point. Deuxième élément, vous évoquez les sujets d'intelligence artificielle, j'ai évoqué tout à l'heure le cyber. Il faut effectivement avoir en tête, au-delà des enjeux militaires, ce qu'on appelle, ce que certains appellent la défense globale. Actuellement, la commission de la défense de l'Assemblée nationale travaille sur le concept de défense globale. C'était un souhait du président Thomas Gassiou. Donc il y a des débats qui existent déjà, que j'invite chacun et chacune à suivre. Donc il faut avoir une vision large, parce que tout à l'heure, on évoquait le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il faut aussi voir que d'ores et déjà, il y a des attaques cyber russes contre les hôpitaux français, contre qu'ils essaient de disrupter un peu les élections. Donc le sujet, c'est pas avoir seulement une vision militaire, mais avoir une vision globale. Et cette défense-là, elle doit se construire brique par brique, mais avec un dernier élément, c'est avoir une vision de long terme pour construire les choses de façon cohérente et ne pas faire les choses en urgence.
Merci beaucoup Axel Nicolas d'avoir été avec nous. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de la Défense Orion, la Fondation Jean Jaurès. Merci aussi À vous, Jérôme, général Jérôme Pellestrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
Merci beaucoup également à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueillait ce matin en studio. Merci Jean-Baptiste, c'était sympa de faire ça avec vous.
Mais c'est toujours un plaisir d'être avec vous, Melchior.
Avec grand plaisir. Eh bien, ça tombe bien puisqu'on a parlé de la paix là, dans les quelques dernières minutes de l'émission. On va essayer de construire la paix avec les jeunes dans la seconde partie de Je pense donc j'agis. Toujours, bien sûr, avec vos réactions, vos témoignages au 04 72 38 20 23 dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis ou par mail à direct@rcf.fr. À tout de suite.